fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Bonjour Michel Valmet.
Bonjour Françoise, bonjour Vincent Rousseau.
Heureux de vous retrouver.
Et bonjour à vous, chers auditeurs de JTFM, qui êtes à l'écoute de notre émission Fantômes et merveilles.
Émission de Science 89, oui. Hein, je tiens à le préciser.
Émission, une fois de plus, sous-titrée Vertige et peau et songe, ou plus exactement, Portrait souvenir de Michel Ragon, car, rappelons-le, 2024 sera l'année du 100e anniversaire de la naissance de Michel Ragon, et qu'à cette occasion, nous continuons d'échanger avec Vincent Rousseau afin d'évoquer Michel Ragon, justement, lequel fut un des plus grands critiques de la peinture et de l'urbanisme au XXe siècle, mais pas seulement, puisque également romancier, poète, amateur de musique, personnalité foisonnante, ainsi que nous l'avons suggéré au cours de nos rencontres précédentes. Et rappelons-le, anarchiste.
Oui.
Bouquiniste,
oui.
Intéressé, si je ne me trompe, à Le Corbusier et a publié un livre sur l'histoire de Paris, vu sous l'angle urbanistique, peut-être Vincent Rousseau, pourriez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, mais avant de passer à cette explication, parce que je suis sûr que vous allez être très très... Vous allez pouvoir nous informer, je voudrais revenir à l'émission précédente. Parce que là, on a bien vu que cette personnalité de Michel Ragon est absolument étonnante. Et nous avions parlé d'immigration et d'immigrés. Et nous nous étions arrivés à son livre « Ma sœur aux yeux d'Asie », que vous connaissez bien, je crois, Vincent Rousseau.
Oui, ben c'est un livre qui a été écrit en souvenir des relations qu'il a eues avec sa demi-sœur, femme d'une épouse, d'une compagne que son père avait eue en Indochine et qui était revenue avec à la fin de son service. Donc il a rencontré une personne qui avait les yeux bridés et avec qui il a beaucoup partagé. Pas très longtemps parce que je crois qu'elle est morte assez jeune. Et c'était c'est le début de la plongée dans ses souvenirs familiaux et le cycle vendéen qui va suivre dans cette seconde partie de sa carrière de romancier.
Alors, il y a eu un cahier spécial de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire qui a été dédié à Michel Ragon, on en avait parlé, c'était en 2016, et Henri Copin, poète également, nous avait livré ses impressions de lecture de ce livre. Vous pouvez nous en lire ce qu'en disait Henri Copin ou François Thirion ?
Oui, je vais vous parler du chapitre intitulé « Un rêve exotique et tendre ». Alors, le jeune Michel, à 16 ans, quitte Nantes pour Fontenay-le-Comte. Surprise, il y retrouve une jeune Odette, rieuse, sa sœur, peu connue, métisse, anamite, terme d'époque, ramenés des colonies par leur père, Aristide, le cochin chinois. Yeux félins, regard d'ailleurs, brusques éclats de rire, sa présence exotique dérègle le temps et l'espace. Avec elle, ressurgit l'enfance et le père disparu. Ma sœur aux yeux d'Asie, plus que la chronique d'un été, est un roman d'apprentissage ou plutôt d'apprentissage pluriel.
Alors, merci Françoise, à lire absolument. Et cette idée de rencontre avec les pays étrangers, d'amitié, de mémoire, puisqu'il est question du père, tout est présent dans ce livre. C'est absolument extraordinaire.
Oui, tout est présent. Et puis, il y a aussi tout ce qu'il a vécu, parce que Michel Ragon était un grand voyageur. Il est allé Il a vécu en Angleterre un an, il est allé aux États-Unis, il est allé au Japon, il est allé au Danemark, il a fait des voyages que ne faisaient pas à ce moment-là toutes les personnes curieuses. Lui, il est allé voir sur place ce qui se passait. Il a écrit un livre qui s'appelait « Drôle de voyage ».
Oui, et c'était... Il a écrit aussi ce livre-là.
Oui, c'est... Et après, il raconte qu'il s'est, justement, quand il a commencé à se consacrer plus précisément à la littérature et au roman, il a beaucoup moins voyagé. Il a sa discipline de travail l'obligeait à rester dans son bureau, mais il a beaucoup voyagé à travers ses souvenirs.
Mais alors, il n'a pas simplement voyagé à travers ses souvenirs, il a voyagé à travers le futur également, et il s'est mis à s'intéresser à ce que représentait l'urbanisme. Je reviens à Françoise qui, en début d'une émission, nous parlait de Le Corbusier. Alors, il a bien connu Le Corbusier.
Oui, ça c'est très intéressant, parce que Michel Ragon, qui a vécu dans des... habitations dans des logements misérables, a toujours rêvé à ce que pouvait être une habitation convenable. Il a écrit assez tôt un livre qui s'appelait « Où vivrons-nous demain ?» Et il se posait la question de l'urbanisme futur. Là, on était dans l'après-reconstruction, après la guerre. Il avait rencontré Le Corbusier dans les années 50, à l'occasion d'une exposition qu'il avait organisée à Marseille, dans la cité radieuse que venait de réaliser Le Corbusier. Cette exposition s'est tenue ensuite à Nantes, où venait aussi d'être inaugurée la cité radieuse de Rosé. Et de ces rencontres avec Le Corbusier, il s'est fait des relations dans le milieu de l'architecture. Il est devenu ami avec, par exemple, le grand collaborateur de Le Corbusier qui s'appelait Wojcinski. C'est Wojcinski, d'ailleurs, qui a suivi les travaux de la cité radieuse à Nantes. Et il a créé, dans les années 50, un groupe avec des amis urbanistes et architectes pour réfléchir à ce que pourrait être la ville plus tard.
On va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, Vincent Rousseau, et nous allons écouter la sarabande de la deuxième suite de Bach pour violoncelle. C'était la sarabande de la deuxième suite de Bach pour violoncelle. Alors, ce n'est pas un hasard si j'ai passé ce morceau-là, parce que, figurez-vous, Vincent Rousseau, ce morceau a été joué au moment de la cérémonie des obsèques de Michel Ragon à Paris. C'était en l'église Saint-Eustache. Et c'était le mercredi 19 février 2020.
Alors, ça c'est très, très important de rappeler ça, parce que Michel raconte, ne parle pas très souvent de son amour ou de sa passion pour la musique qu'il partageait ou qu'il, avec sa, son épouse Françoise, qui est musicienne. Elle est pianiste, elle fait quelques concerts, elle donne des cours, elle est toujours active et passionnée de musique, et ils se rendaient régulièrement ensemble à des concerts. Michel Ragon a beaucoup aimé la musique, il s'est toujours interdit d'en parler.
Mais c'est aussi pas tout à fait un hasard si j'ai passé ce morceau-là, et si tout à l'heure, juste avant de passer ce morceau-là, on rappelait l'importance que Le Corbusier avait eue dans la vie de Michel Ragon, parce que si je me souviens bien, il s'est marié à l'église de Ronchaux.
Oui, parce que...
C'était Le Corbusier qui a été
Absolument. Et Michel Ragon avait déjà eu des épouses ou des compagnes, mais c'est la première fois qu'il se mariait religieusement. Il avait accepté de se marier religieusement dans l'église de Ronchamp. Et c'est très, très, très important. Ça pouvait montrer l'intérêt qu'il avait, non seulement pour sa femme qui était d'éducation chrétienne, mais aussi pour Le Corbusier, qui s'était beaucoup consacré aussi à l'architecture sacrée.
Alors, il a pas simplement écrit sur le Corbusier, et il a écrit sur d'autres... Il s'est intéressé à d'autres architectes, vous avez cité Wojcinski tout à l'heure, mais il a écrit un bouquin qui s'appelle « Paris, hier, aujourd'hui, demain ». Et on parlait de cette vision qu'il pouvait, à un moment donné, quand il a plus ou moins arrêté d'écrire des romans, et qu'il s'est intéressé à l'architecture. Et il a écrit notamment ce bouquin sur Paris. Je vais demander à Françoise de nous lire un petit extrait, parce que ça, c'est formidable. J'ai redécouvert Paris à travers ce livre.
Donc, Paris, hier, aujourd'hui et demain. Et c'est à propos du métro parisien que Michel Ragon reprend les vues d'un nomadisme du nom de...
Mémon.
Et il nous dit, pour la traversée ouest-est de Paris, Mémon a imaginé une solution à première vue plus utopique que l'aménagement des berges en autoroute. Ce serait une autoroute sous la Seine. Celle-ci suivrait le chemin du fleuve. Une seconde solution consisterait à supprimer le métro, ou plus exactement, on supprimerait le métro souterrain et on installerait dans Paris ce métro suspendu dont on a expérimenté un prototype. Celui-ci aurait l'avantage de n'occuper la chaussée que sur une surface insignifiante. Quelques pylônes suffiraient à soutenir le rail de circulation. Les camions pourraient ainsi passer sous le métro. Et dans les souterrains de l'ancien métro, il serait possible de construire des autostrades.
Ah, c'est formidable. Mais alors, il a pas simplement écrit sur les architectes qui étaient visionnaires. Il a aussi créé une association.
Oui, il a réuni autour de lui des personnes qui rêvaient à l'architecture de l'avenir. Là, on savait, c'était le mythe de l'an 2000 dans les années 60. Quel serait le monde comment seront les villes en l'an 2000? Comment se déplacera en l'an 2000? Donc, il a réuni autour de lui des théoriciens et des personnes qui se lançaient dans la prospection pour créer un groupe qui s'appelait le Groupe international d'architecture prospective. Et Paul Mémon, que vous avez cité tout à l'heure, était un de ces architectes qui a rêvé de manière tout à fait théorique à ce que pourraient être des solutions peut-être utopiques. Aujourd'hui, je ne sais pas si toutes ces solutions-là auraient pu être des choses applicables, alors qu'on a des problèmes d'énergie, des problèmes considérables actuellement pour le coût des problèmes climatiques. Mais Il a été un temps très engagé dans cette réflexion-là.
On va revenir sur tout ça dans une prochaine émission. Et l'émission se termine, François.
C'est l'heure de se quitter et de se retrouver la semaine prochaine. Merci Vincent Rousseau. Merci Michel Valmer.
À bientôt.
Merci à tous, chers auditeurs, et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmer.